Bienvenue sur le podcast Une Session Presque Parfaite, le podcast qui rentre dans les coulisses de la transmission d'entreprise. L'objectif ? Aller à la rencontre de dirigeants qui ont vendu ou qui ont tenté de vendre leur entreprise, mais également échanger avec des avocats d'affaires, des investisseurs, des conseillers en session d'entreprise pour obtenir toutes les clés de réussite d'une telle opération. Je suis Eliott Samoun et je suis conseiller en session et financement d'entreprise.
Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir Nicolas Camus, cofondateur de The Wealth Office, donc un cabinet de gestion de patrimoine indépendant, dédié aux entrepreneurs et aux dirigeants. Et donc Nicolas, tu es venu nous parler d'un sujet très important, le sujet de l'optimisation et de la valorisation de la trésorerie d'entreprise. Bonjour Nicolas.
Bonjour Eliott, merci de me recevoir sur ce podcast. Effectivement, cofondateur du cabinet The Wealth Office. Et l'un de nos grands chevaux de bataille, c'est la trésorerie d'entreprise. Et donc, c'est un sujet essentiel qu'il convient d'évoquer aujourd'hui et au plaisir d'en discuter avec toi.
Bah, merci beaucoup, Nicolas. Donc, avant de rentrer dans les détails un peu de ce sujet passionnant, est-ce que tu peux nous présenter, te présenter à nous, et nous dire ce que tu fais, s'il te plaît?
Oui, bien sûr. Alors, je m'appelle Nicolas Camus, je suis cofondateur du cabinet The Wealth Office. Je vais avoir 30 ans. Dans un mois,
ah bah,
on enregistre ce podcast.
J'ai passé la trentaine il n'y a pas longtemps, donc bon courage.
The Wealth Office est un cabinet de gestion de patrimoine essentiellement dédié aux entrepreneurs, aux dirigeants et aux professions libérales, également au C-level. Et notre but, donc, c'est d'accompagner les clients dans différents aspects de leur gestion de patrimoine, donc que ce soit le patrimoine professionnel, privé ou social. Donc, ça va aller du conseil en restructuration de patrimoine, jusque sur le volet transmission, accompagnement avant la cession sur des thématiques dédiées et notamment la trésorerie d'entreprise, ouais, qui aujourd'hui est un sujet qui est au cœur de beaucoup de discussions, puisqu'on remarque, et notamment du fait qu'on soit aujourd'hui, nous, partenaires privilégiés de plusieurs cabinets d'expertise comptable.
Tout à fait.
On remarque que la trésorerie d'entreprise, c'est un sujet qui n'est pas forcément toujours traité. Et aujourd'hui, nous, on le met au goût du jour.
Alors justement, pour quelles raisons, selon toi, de par ton expérience, les dirigeants ne se préoccupent pas de cette façon de la trésorerie d'entreprise?
Alors, dire qu'ils s'en préoccupent pas, c'est pas forcément ça. C'est qu'aujourd'hui, une trésorerie d'entreprise, il faut distinguer ce qu'est une trésorerie d'une trésorerie excédentaire.
Tout à fait.
Une trésorerie, aujourd'hui, ça permet au dirigeant de satisfaire à l'exploitation de son activité, parce qu'il doit payer ses fournisseurs, parce qu'il a aussi des dépenses engagées, des salaires à payer. Donc aujourd'hui, la trésorerie d'entreprise, c'est fondamental pour qu'une entreprise puisse correctement fonctionner. Par contre, à partir du moment où on constate qu'une trésorerie excédentaire s'accumule au sein d'un compte de société et que le dirigeant surtout exprime des objectifs qui ne sont pas réglés avec cette trésorerie non exploitée, à ce moment-là, on considère qu'il y a une trésorerie excédentaire. Nous, on considère qu'à partir de 100 000 euros net de BFR,
en
fonds de roulement, stock plus créance moins dette, dès qu'il y a une trésorerie excédentaire de plus de 100 000 euros, on considère qu'il y a un vrai sujet. Et donc, le but, c'est de parler au dirigeant et de lui demander est-ce que c'est volontaire et sinon, comment on peut valoriser cette trésorerie excédentaire.
Donc, il y a un gros travail à faire en amont pour identifier et analyser cette trésorerie déjà. Donc, parce que le dirigeant, les dirigeants sont souvent prudents et il faut aussi, il y a cette pédagogie à faire avec eux, donc pour leur expliquer que la trésorerie excédentaire, en fait, si elle n'est pas placée, si elle n'est pas optimisée, c'est dommage pour eux. Donc, c'est vrai que, du coup, tu fais ce travail-là avec The Wealth Office d'analyse de la trésorerie et de déterminer quelle part est excédentaire ou non.
Exactement. Alors en fait, si tu veux, j'ai commencé à travailler avec des experts comptables il y a maintenant 5 ans. Pourquoi je te parle des experts comptables? Parce qu'en fait, depuis que je travaille avec des experts comptables, ce sujet de trésorerie excédentaire, on l'a vraiment mis au goût du jour. Donc il y a 5 ans, j'ai commencé à travailler avec la profession d'expert comptable parce que beaucoup de leurs clients leur faisaient remonter des problématiques, alors plutôt des questionnements, que faire de ma trésorerie, j'ai des objectifs, je souhaite arrêter de travailler avant 50 ans, voilà. Toutes ces questions en fait qui reprenaient la thématique de la trésorerie, ils ne savaient pas forcément comment y répondre. Et donc, quand j'ai commencé à travailler avec les experts-comptables, ils me demandaient très clairement, mais Nicolas, aujourd'hui, quelles sont les solutions ou comment valoriser cette trésorerie excédentaire? Et donc, au fil de l'eau, et notamment depuis qu'on a créé The Wealth Office, notre but à nous, c'est d'expliquer très concrètement à un dirigeant quels sont les effets d'une trésorerie aujourd'hui excédentaire, non valorisée, typiquement frein à la cession.
Oui, bien sûr.
Parce que les repreneurs, ils vont pas forcément financer la trésorerie. Alors, parfois, on me dit que oui, mais dans la grande majeure partie des cas, les repreneurs ne financent pas la trésorerie. Et conserver une trésorerie qui, in fine, bloquera la cession ou demandera de décoter les parts durant la cession, c'est pas forcément opportun. Ça va être aussi un frein demain à la succession, parce qu'on va venir augmenter la valeur de la société. Donc, du coup, on va générer des droits de succession plus importants. Ça va être aussi un frein sur le volet valorisation, parce que tu n'es pas sans savoir que depuis quelques années, il y a quelque chose qui nous touche tous, qui s'appelle l'inflation.
Ouais, tout à fait.
Alors l'inflation, c'est bien quand c'est régulé. La Banque Centrale Européenne considère qu'une inflation à 2%, c'est une économie en bonne santé. Or, si on regarde les chiffres de l'INSEE, en 2022, l'inflation, c'est 5,22%. Et en 2023, l'inflation, c'est 4,9%. Donc, ça veut dire que c'est une hausse généralisée des prix à la consommation d'une année sur l'autre qui, mécaniquement, dégrade le pouvoir d'achat du dirigeant. Et ça, quand on le met en perspective en lui disant que sa trésorerie, elle n'est pas employée et derrière, elle se fait grignoter par l'inflation, le but de tout dirigeant, à la base, c'est de gagner de l'argent.
Bien
et
sûr.
Là, il en perd. Donc, tout ça, toutes ces choses-là, en fait, c'est des choses qu'on va, avec pédagogie, expliquer au dirigeant, qu'on va expliquer à son expert comptable pour qu'ensuite, on puisse lui présenter les solutions adéquates.
Donc, les principaux freins, entre guillemets, les risques d'une trésorerie excédentaire, donc tu l'as très bien dit, donc c'est d'une part la cession transmission, donc à la fois la cession à un tiers externe à l'entreprise et la transmission également familiale qui peut donc impacter les héritiers qui verraient leurs droits de succession augmenter pour au final rien entre guillemets, enfin voilà, pour parce que ça reste de la trésorerie, donc d'une part également pour contrer l'inflation. Donc c'est vrai que c'est trois grands axes sur lesquels tu interviens, donc Nicolas. On va parler évidemment des solutions que tu vas proposer donc après, mais déjà comment donc appréhender en fait cette trésorerie excédentaire d'un point de vue même patrimonial, puisqu'au final on parle de patrimoine à la fois du dirigeant d'entreprise mais aussi le patrimoine donc de l'entreprise. Donc voilà, comment appréhender cette trésorerie excédentaire?
Alors, on l'appréhende sous l'angle patrimonial. Pour commencer, effectivement, tu as trouvé le mot juste, on l'appréhende sous le mot patrimonial. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, on prend de la hauteur. Un outil professionnel, c'est au service du dirigeant, pas l'inverse. Donc, une trésorerie d'entreprise, c'est un outil au service des objectifs du dirigeant, qui sont protéger ma famille, générer des revenus qui vont remplacer mes revenus d'activité quand je vais cesser de travailler. C'est toutes ces choses-là, en fait, on détermine en premier lieu les objectifs du dirigeant. Une fois qu'on a déterminé les objectifs, on regarde dans la structuration actuelle du patrimoine si la manière dont est employé ce patrimoine répond aux objectifs. Et mécaniquement, par exemple, pour reprendre l'exemple des experts comptables, lorsque un expert comptable me dit j'ai un dirigeant avec lequel je travaille qui souhaite arrêter de travailler à horizon 15 ans, qui souhaite générer X revenus à terme. Et quand je fais la projection, moi, je dis oui, mais si on ne prépare pas aujourd'hui, on ne pourra pas répondre aux objectifs. Et quand je regarde la trésorerie excédentaire, je vois par exemple qu'il y a une trésorerie de 400, 500 000 euros qui n'est pas aujourd'hui employée. Et donc, je me dis OK. Enfin, je dis au dirigeant OK. Aujourd'hui, on est dans une phase où vous pouvez capitaliser sur une période donnée pour que, à terme, vous puissiez répondre à vos objectifs de distribution de revenus de remplacement. Et donc, on va mettre en place une stratégie qui va vous permettre, in fine, de répondre à vos objectifs, qui sont de couvrir votre train de vie à horizon 15 ans. Et donc, en fait, cette pédagogie, ça permet de projeter le dirigeant, de lui dire « Ok, aujourd'hui, on est là. » Et en fonction des outils et des ressources à disposition qu'on a, on va pouvoir construire un plan qui va répondre à vos objectifs à horizon 10, 15, 20 ans. Et donc, les objectifs ne sont pas forcément les mêmes pour tous les dirigeants. Et donc, comment j'appréhende ça? J'appréhende ça en fonction du dirigeant avec lequel je discute.
Merci beaucoup, Nicolas. Donc, effectivement, il y a toute une analyse patrimoniale à faire avec le dirigeant. Effectivement, comprendre ses projets personnels, familiaux, sa situation personnelle, sa situation familiale, puisque c'est ça qui va conditionner, entre guillemets, les solutions que tu vas leur proposer. Et justement, parlant de solutions, donc Nicolas, donc le fait que la trésorerie, le travail sur la trésorerie fasse partie d'une de vos activités phares, entre guillemets, chez The Wealth Office. Alors, quelles sont les solutions qui s'offrent à un dirigeant d'entreprise en fonction de chaque situation, évidemment, puisque tu l'as rappelé, chaque situation est différente. Donc, quelles sont les solutions que tu peux proposer à un dirigeant pour optimiser et valoriser sa trésorerie d'entreprise?
Alors, ça va dépendre, comme je le disais, des objectifs exprimés par le client. Et l'avantage, en fait, aujourd'hui, c'est qu'on a pléthore de solutions pour pouvoir répondre à ces objectifs. Tu vas avoir des solutions de court terme. Typiquement, tu vas retrouver tout ce qui va être dépôt à terme, compte à terme. Mmh. Donc ça va être des solutions qui vont garantir le capital et garantir les intérêts. Donc sur une période donnée de quelques mois allant jusqu'à 1, 2, 3, 5 ans, d'accord, tu vas pouvoir en fait immobiliser des capitaux, mais que tu vas pouvoir faire travailler à un rendement de... Alors, selon les conditions de marché, aujourd'hui, on est aux alentours de 3, 3,5.
D'accord.
Ce qui permet peu ou prou de couvrir l'inflation.
Ouais, tout à fait.
Ça, c'est des solutions dites de court terme. Moi, j'appelle ça des solutions d'attente, le temps de déterminer la stratégie. Ensuite, tu vas avoir d'autres solutions, dites encore de distribution ou de capitalisation. Mmh. Donc, je pense qu'on va rentrer un peu plus dans le détail
bien
ensuite,
sûr,
mais
oui,
tu vas retrouver tout ce qui va être usufruit de SCPI. Mmh. Ça, c'est très prisé par les dirigeants parce que ça permet en fait de générer des revenus, d'amortir comptablement parce qu'on a investi que via l'usufruit. Et ça permet de percevoir des revenus sur la valeur pleine propriété de ces SCPI. J'entrerai ensuite dans le détail pour voir ce que c'est. Ça permet aussi de moduler la durée sur 5, 7, 10 ans. Donc, c'est confortable. Donc ça, on est vraiment sur les solutions dites de distribution. Mais on peut également envisager, si on est sur une thématique de plus long terme, typiquement sur 10, 15 ans, 20 ans, on peut envisager des solutions capitalisantes. On ne parle pas beaucoup du contrat de capitalisation.
Ouais. T'en parles, ce qui est bien, c'est que t'en parles bien sur LinkedIn.
Ouais.
Et d'ailleurs, bah, je vous recommande, je profite pour toutes les personnes qui nous écoutent de suivre donc Nicolas, parce qu'effectivement, le contrat de capitalisation, on n'en parle pas forcément
parle
assez.
Pas
et c'est vrai que t'es un peu la référence, en tous les cas, les seules fois où j'en entends parler, c'est souvent grâce à toi.
Mais on n'en parle pas beaucoup parce qu'en plus, le contrat de capitalisation, comme on est dans une période économique où les taux sont hauts, les taux moyens d'emprunt d'État sont aujourd'hui assez hauts et c'est ce qui drive la fiscalité du contrat de capitalisation sur les avances annuelles. Par exemple, en octobre, on était à 3,5% de TME, donc de taux moyen d'emprunt d'État. Et aujourd'hui, alors au 31 janvier, il me semble qu'on est rebasculé à 2,78%. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'aujourd'hui, la fiscalité d'un contrat de capitalisation, elle est plus intéressante que ce qu'elle était, pardon, il y a quelques mois. C'est pas forcément les niveaux ras des parquets qu'on a connus il y a quelques années, mais la fiscalité, c'est souvent un sujet sur le contrat de capitalisation, mais quand on rentre dans le cœur du moteur et qu'on fait des projections chiffrées, ben on remarque qu'en fait, c'est pas forcément tant un sujet que ça, d'autant plus que dans un contrat de capitalisation, on peut y loger des choses vraiment sympathiques. Et nous, l'un des facteurs clés de notre cabinet, c'est qu'on va notamment travailler sur des contrats dits luxembourgeois. Donc, qui vont permettre de travailler sur des allocations travaillées. On va pouvoir vraiment ultra diversifier, parce qu'un contrat de capitalisation, c'est une enveloppe d'investissement au sein de laquelle tu vas pouvoir y mettre un petit peu tout ce que tu veux. Et on va pouvoir notamment, en fonction du contexte de marché, y mettre du marché action via des ETF. Pareil, je rentrerai ensuite dans le détail. On va pouvoir y mettre des bonds, donc des obligations datées, parce qu'aujourd'hui, les taux le permettent. On va pouvoir également y mettre du private equity, donc ça parlera à tes auditeurs,
bien
le private
sûr.
Equity, le fait d'investir dans des structures qui ne sont pas cotées en bourse, et notamment via des fonds dits evergreen, donc toujours ouverts, qui offrent une semi-liquidité, donc ça c'est vraiment quelque chose de ultra puissant, et qui génère une performance annualisée, donc les fonds qu'on a sélectionnés depuis l'origine, qui bien souvent, notamment, dépassent les performances du MSCI World, donc qui est l'indice de référence avec un gros focus États-Unis et ensuite Europe. Donc, ces fonds Evergreen, ils vont aujourd'hui permettre de vraiment valoriser le portefeuille, décorréler les classes d'actifs, notamment dans un momentum où les marchés sont turbulents. Et donc ça va permettre à nos clients d'ultra diversifier au sein d'une même poche. Et quand on leur parle de ça, ils disent bah, aujourd'hui, ok, c'est exceptionnel, on peut vraiment faire des choses sympas. On peut faire aussi du private
equity
direct.
Bien sûr, tout
à fait. On peut vraiment faire beaucoup, beaucoup de choses. Et donc, je pense qu'on rentrera dans le détail.
Ah, bien sûr, avec grand plaisir. Et effectivement, il y a un panel de solutions Et ce qui est intéressant, c'est que souvent, les dirigeants n'ont pas forcément connaissance de toutes ces solutions-là ou pensent que c'est pas forcément accessible pour eux. Je voulais revenir sur une question, Nicolas, donc parce qu'au final, tout part quand même de la trésorerie excédentaire. Donc, comment tu évalues en fait le coût d'opportunité de placer cette trésorerie excédentaire par rapport à d'autres investissements? Par exemple, un dirigeant qui est un peu prudent et qui se dit non, cette trésorerie excédentaire, je peux l'utiliser pour la croissance future de mon entreprise. Voilà, comment tu arrives un peu à déceler ce coût d'opportunité pour lui?
Alors, dès le rendez-vous de découverte.
Ok.
Concrètement, comment ça se passe, un accompagnement dirigeant chez The Wealth Office? Soit le dirigeant nous sollicite directement, parce que tu l'as très justement dit tout à l'heure, on communique beaucoup sur les réseaux sociaux, notamment LinkedIn. Hein. Moi, j'ai une communauté aujourd'hui de 10 000 abonnés, et The Wealth Office, on a une communauté de quasiment 70 000 abonnés avec Camille. Et donc, on est vu et lu par beaucoup de monde. Donc, on est soit sollicité en direct, soit on est sollicité par nos partenaires experts comptables. Aujourd'hui, on a noué une dizaine de partenariats avec nos partenaires experts comptables.
Grâce à toi, parce que c'est toi qui es en charge de créer ces partenariats-là, donc tu fais un gros travail.
Grâce à nous.
Oui, grâce à vous, je veux dire, bien sûr, hein, mais je sais que c'est toi qui es en charge, parce que t'aimes justement ce côté-là.
Effectivement, on a un petit peu réparti les tâches, et moi, j'ai notamment, au-delà de mon rôle de conseiller en gestion de patrimoine, le rôle et le plaisir d'animer la relation avec nos partenaires experts comptables qui nous le rendent bien, qui nous invitent à des événements, à des webinaires et qui nous permettent de diffuser, je dirais, de prêcher la bonne parole auprès de leur clientèle. Donc on les remercie et on apprécie vraiment travailler avec eux. Mais effectivement, à partir du moment où le dirigeant nous le rencontre pour la première fois, le coût d'opportunité, ce qu'on déterminera, ce que j'appellerais plutôt, moi, la nécessité de travailler ensemble ou pas, c'est de déterminer, OK, quels sont vos objectifs concrets dans la grande majeure partie des cas. Alors, c'est pas exhaustif, mais ça va être, aujourd'hui, je me tue à la tâche, je travaille beaucoup. Mon objectif, à moi, c'est de pouvoir, à horizon 10, 15, 20 ans, arrêter de travailler et remplacer mes revenus d'activité par des revenus patrimoniaux. Ça va être, je veux protéger mes enfants. Ça va être, si demain il m'arrive quelque chose, j'ai envie que la suite soit assurée. Et ça va être, je veux optimiser le tout pour que si demain je cède ma boîte, la trésorerie, elle soit correctement employée. Donc là, on va par exemple utiliser des schémas avec mise en place de holding.
Ouais.
Alors je sais qu'à plusieurs reprises, tu as déjà reçu des invités qui t'ont parlé du régime Murphy, remontée de dividendes. Donc un outil très puissant qui permet, en remontant les dividendes, de ne pas appliquer de fiscalité en contrepartie d'une quote-part de frais et taxes de 5%, fiscalisé au taux IS en vigueur, donc aujourd'hui de 25%, et donc avec un taux fiscal effectif in fine de 1,25%. Et donc ça, derrière, tu vas pouvoir, au sein de la holding, derrière, patrimonial, retravailler la trésorerie, l'utiliser sur vraiment des solutions dédiées à ton patrimoine, à ton activité personnelle, enfin à tes objectifs personnels, dédier la société opérationnelle à des activités professionnelles, et donc tu vas pouvoir vraiment faire en sorte que ta société d'exploitation soit au service de ton patrimoine et de tes objectifs personnels. Et moi, c'est ça en fait que je veux faire sortir durant mes échanges avec notaires, experts comptables, avocats et clients. C'est aujourd'hui, vous avez des outils, mais ce qui compte, à la rigueur, c'est même pas les outils. Enfin, c'est important de l'avoir, mais c'est pas les outils. Ouais. C'est quels sont vos objectifs et comment, avec ces objectifs, on peut optimiser ça. Et donc, tu me parlais d'un dirigeant qui était potentiellement aujourd'hui prudent sur l'exploitation de ta trésorerie.
Tout à fait.
Je le rassure directement. Aujourd'hui, notre but, nous, c'est pas de flamber votre argent, c'est pas d'aller sur des solutions ultra risquées. Notre but, c'est d'avoir une approche patrimoniale toujours en répondant à vos objectifs, dans le respect de votre profil investisseur. Et donc ça, c'est toute la dimension conseil qu'on apporte chez The Wealth Office.
Parfait, parce qu'au final, Nicolas, moi, je constate que les dirigeants de PME ont grande partie une trésorerie qui est excédentaire. Donc, est-ce que c'est aussi le constat que tu fais parmi tous les clients que tu accompagnes et que tu as accompagnés dans le passé, est-ce que tu te rends compte qu'au final, c'est vrai que les PME sont celles où il y a le plus de cash qui dort dans les...
Alors, de cash qui dort, je dirais, c'est plus probant quand t'es une société, un dirigeant, parce que quand tu regardes le patrimoine dans sa globalité, quand tu es investisseur privé, tu dois d'abord avoir de l'épargne de précaution, donc qu'on considère être suffisante entre 6 et 12 mois. Donc, 6 et 12 mois de revenus, on considère qu'une épargne de précaution qui couvre cette latitude-là, c'est suffisant. Ensuite, tu vas avoir des investissements dits plutôt de court terme, typiquement épargne PEL ou autre. Donc ça va être vraiment ton matelas. Tu vas avoir des investissements immobiliers. Tu vas avoir ensuite sur des temporaires investissements, des solutions d'investissement PEA, assurance vie, sur du plus long terme. Donc quand tu travailles avec un particulier, en fait, il y a différentes temporalités, il y a différentes choses à mettre en place pour harmoniser. Sur la trésorerie d'entreprise, en fait, ce qui va déterminer derrière si il y a trop de trésorerie ou s'il faut l'employer, je te dis, c'est de se dire, ok, aujourd'hui, combien de trésorerie avez-vous besoin pour financer votre activité? Et le reste, est-ce que c'est là parce que vous n'aviez pas de solution dédiée, parce que vous n'aviez pas le temps, parce que c'était volontaire, vous aviez un autre projet, typiquement immobilier demain, je te parlais tout à l'heure de holding, mais tu peux derrière, si tu as des projets immobiliers familiaux, mettre en place une holding patrimoniale. D'un côté, tu as la société d'exploitation, de l'autre côté de la holding, tu as une société civile, notamment immobilière, une SCI, et tu, via une convention de trésorerie, fais circuler le cash de la société d'exploitation de l'autre côté pour vraiment structurer le volet patrimonial. Donc tout ça, en fait, toutes ces questions-là, elles déterminent si, la trésorerie qui est ici, elle a besoin d'être employée sur du court terme, elle ne peut pas être employée. Si elle peut être employée sur du long terme, est-ce qu'elle le doit l'être par des solutions distribuantes ou capitalisantes? Et donc c'est ce premier échange qui va poser le jalon de tout le reste.
Merci beaucoup, Nicolas. Donc, effectivement, une analyse à 360 degrés, donc, qui est nécessaire au final, hein, pour optimiser et comprendre surtout, en fait, la nécessité d'un dirigeant à placer cette trésorerie. Donc, je voulais revenir parce que tu as parlé de beaucoup de solutions, donc, toutes intéressantes les unes que les autres. Est-ce que tu peux revenir sur chacune de ces solutions et nous expliquer un peu comment ça fonctionne pour que le dirigeant qui nous écoute, il sache déjà quelle solution pourrait l'intéresser, même si évidemment, je tiens à le rappeler que ce n'est pas des conseils en investissement évidemment, et le plus important, c'est de sensibiliser les dirigeants, donc d'où le travail de Nicolas qui est fait un gros travail, et je te remercie d'ailleurs pour ça. Donc c'est important d'expliquer aux dirigeants qui nous écoutent toutes les solutions qui s'offrent à eux. Donc voilà, Nicolas, je te laisse la parole.
Je pense que le podcast ne suffira pas pour évoquer toutes les solutions.
Ah bah justement, c'est l'objectif.
Non, plus sérieusement, nous, quand on communique auprès de notre clientèle et auprès de prospects sur les solutions de trésorerie, on communique en matière de, je dirais, d'échéance. Donc, on va partir sur des solutions de court terme, comme je l'évoquais tout à l'heure, du compte à terme, du DAT. Donc, pour, je dirais, sécuriser les capitaux pour l'instant, le temps de savoir quoi en faire. Ou alors, et je vais faire la passerelle avec notamment nos solutions de private equity. Par exemple, le private equity, pour reprendre un petit peu de hauteur, c'est le fait d'investir dans des structures qui ne sont pas cotées en bourse, mais il y a des appels de fonds qui sont réalisés annuellement. Et donc, le capital qui n'est pas encore appelé, on va pouvoir, nous, par exemple, le sécuriser sur des comptes à terme, le temps pouvoir satisfaire ces appels de fonds. Et donc ça, vraiment, le compte à terme, ça va être le socle, le début. Ensuite, on va retrouver des solutions dites notamment, par exemple, d'usufruit de SCPI. Donc l'usufruit de SCPI, donc la SCPI, c'est le fait d'investir dans des sociétés qui elles-mêmes investissent dans un parc immobilier. Et donc, on investit au travers de cette SCPI dans un patrimoine immobilier ultra diversifié avec une gestion clé en main. Et aujourd'hui, il existe de très belles SCPI, de très bonnes solutions pour pouvoir justement valoriser cette trésorerie.
Sans détenir l'immobilier. Donc c'est ça qui est l'intérêt aussi, ça. Exactement, c'est
de
ça.
De manière indirecte, mais on s'écarte tous les soucis locatifs, gestion, etc. Le ratio d'emprise, parce qu'on est ultra diversifié, on ne dépend pas d'un seul locataire et autres, donc c'est tout vraiment ultra intéressant si on sélectionne les bonnes SCPI. Et en plus de ça, on peut démembrer et donc aller vraiment sur de l'usufruit. L'usufruit, c'est la nue propriété. L'usufruit, c'est du droit de propriété. C'est le droit de propriété. Donc, la propriété, c'est nue propriété plus usufruit qui forme la pleine propriété. L'usufruit, c'est le droit de jouir donc de percevoir les revenus, ou si c'est un immobilier en direct, d'y habiter. Mmh. Donc on parle de jouissance d'un bien. Et la propriété, c'est le droit de détenir pour avoir des droits futurs.
Tout à fait.
D'accord. Et donc, via l'investissement en usufruit de parts de SCPI, on peut percevoir des revenus sur une valeur pleine propriété, en application d'une clé de répartition, mmh. et sur une durée, sur donc 5, 7, 10 ans, c'est modulable, même plus. Et donc ça permet vraiment, en fonction des disponibilités et des objectifs du dirigeant, de valoriser la trésorerie et de générer des revenus complémentaires. Ensuite, on va trouver des solutions un petit peu plus décorrélées, notamment des marchés financiers, notamment tout ce qui va être dette infrastructure.
Ouais.
On va retrouver aussi également la dette privée.
Dette privée, tout à fait.
Financement ouais. alternatif au financement bancaire aujourd'hui, eu égard au contexte de taux haut. On va retrouver de superbes produits en dette privée. Et ça, ça va être intéressant parce qu'on va pouvoir, sur de l'investissement qui va de quelques années à 10 ans, trouver des solutions ultra pertinentes en dette privée. Et donc ça, c'est vraiment top. Et aujourd'hui, ce qui nous, ce sur quoi on est le plus challengé, parce qu'aujourd'hui, comme on prévient bien en amont, on travaille sur des temporalités de 10, 15, 20 ans, on peut mettre en place des solutions de private equity.
Ouais.
Et donc ça, aujourd'hui, c'est quelque chose qui est très plébiscité, notamment par les acteurs avec lesquels on travaille, que ce soit des dirigeants ou des conseils notaires, experts comptables, avocats. Et on va pouvoir travailler sur des solutions primées, sophistiquées de private equity. Mmh.
C'est vrai que le private equity, c'est une classe qui est de plus en plus prisée parce que, bon, tu vas nous le dire, mais les performances du private equity sont assez belles et ça se démocratise davantage parce que les dirigeants, en tous les cas, de notre côté, quand on accompagne un dirigeant à la session, donc très souvent, quand un dirigeant il a la quarantaine, cinquantaine, il veut toujours rester actif dans l'économie, on va dire. Donc, c'est vrai qu'il va très souvent investir son cash out dans du private equity, ce qui est très intéressant. Parce qu'il y a une participation donc, à l'économie tout en restant, on va dire, conseil de l'entreprise, voilà, apporter son expertise.
Exactement. Alors, effectivement, tu le disais, le private equity, c'est la classe d'actifs la plus rentable depuis maintenant plus de 20 ans.
Ouais.
Donc, bien plus rentable que le marché actions, par exemple. Et en offrant des niveaux de volatilité, donc de couple rendement-risque, bien supérieurs au marché actions, notamment par le fait que ce soit beaucoup moins liquide.
Ouais.
Parce que tout à l'heure, je t'évoquais le calendrier d'investissement du private equity. Le private equity, c'est un investissement d'au moins 10 ans, avec sur les premières années des appels de fonds, qui vont permettre d'acheter les sous-jacents au sein des portefeuilles constitués. Et ensuite, à partir de la cinquième, sixième année, septième année, on va commencer à percevoir les distributions et pour, in fine, que le fonds cède les participations ouais. et fasse générer à l'investisseur initial, enfin, lui restitue son capital initial plus la performance.
Tout à fait.
Donc, on est sur des temporalités plus longues et ce n'est pas un marché comme les marchés boursiers où tu peux rentrer et sortir dès qu'il y a une turbulence économique. Et la contrepartie de cette, je dirais, indisponibilité, alors de cette moindre liquidité, c'est le fait que, justement, on est moins exposé aux turbulences économiques. Par exemple, nous, quand on préconise nos fonds, notamment nos fonds soit au travers des contrats, soit en direct, ben, on fait le distinguo. On dit, par exemple, regardez, en 2008, le 15 septembre, la banque Lehman Brothers se déclare en faillite. Donc, les marchés financiers dans la foulée deviennent très turbulents et agités et génèrent des moins-values. Mais regardez ce que font nos fonds de private equity ouais. Sur cette période-là. 2011, crise de dette souveraine. Notamment avec les difficultés grecques, les marchés financiers sont turbulents, on regarde les performances des fonds de private equity qu'on préconise, ça tient la route. 2018, correction des marchés, 2022, correction des marchés, et on regarde à chaque fois en face les performances des solutions qu'on préconise, et on dit au client, bah, ok, vous voyez, les solutions qu'on préconise, c'est niché, ultra diversifié, on va se spécialiser sur les segments de private equity de croissance et de LBO, donc ouais. de growth et
gross,
de cession, pardon,
ouais,
pardon pour mon anglicisme.
Ouais,
et donc, on va se spécialiser sur des thématiques porteuses. Et donc, historiquement rentable, et ce qui va permettre, en fait, de venir, en plus, décorréler vraiment nos solutions des marchés financiers. Et donc, ça va venir équilibrer le portefeuille. Donc, je fais le parallèle avec ce que tu disais tout à l'heure.
Ouais.
Un investisseur qui me dit « Oui, mais moi, je suis plutôt prudent parce que bah, c'est le fruit d'une vie, etc. » Et c'est souvent ce qu'on retrouve, hein, c'est le fruit d'une vie. J'ai travaillé beaucoup pour ça. Et bien, forcément, je vais lui dire « Regardez les solutions que je vous préconise. Dans les moments où ça va moins bien, elles se décorrèlent complètement des marchés financiers. » Elles tiennent la route et donc vous allez avec nous avoir un portefeuille équilibré Et ensuite, après, je rentre dans en précision dans les fonds qu'on préconise, des fonds primaires, des fonds de secondaire, des fonds evergreen. Mais effectivement, oui, on est ultra diversifié et on s'attelle à ce que ce soit complètement cohérent avec les objectifs clients.
Et surtout, sur le private equity, c'est super intéressant ce que tu dis, Nicolas. Sur le private equity, ce qui est intéressant aussi, c'est de plus en plus, il y a moins ce sujet d'illiquidité des parts parce qu'il y a de plus en plus d'intermédiaires donc, en cession d'entreprise, transmission, donc, qui vont permettre de rendre davantage liquide aussi, au final, les participations donc, des fonds qui, parce qu'il y a de plus en plus d'achats et reventes d'entreprises. Les banques d'affaires qui vont davantage accompagner des entreprises, des industriels. Donc, il y a parce que nous aussi, on parle parfois de décote de liquidité, etc. Donc, au final, ça se fait de moins en moins parce qu'il y a une professionnalisation, il y a de l'intermédiation qui est de plus en plus présente, ce qui fait que, au final, il y a... on peut revendre une entreprise au bout de 5 ans, 6 ans, voilà, c'est voilà, donc il y a ce sujet de liquidité effectivement qui est moins qui est de plus en plus on va dire corrigé. D'autres solutions, Nicolas. Donc, tu as parlé du private equity. Une question aussi.
Alors, oui, bien sûr. Je vais rebondir sur ce que tu viens de dire. Bien sûr, effectivement, le private equity, notamment, tu as parlé du volet décote, tu as parlé du volet liquidité. Ça, c'est des notions qu'on retrouvait pas forcément il y a quelques temps. Ouais. Et qu'aujourd'hui, en fait, on retrouve de plus en plus au goût du jour. Et le private equity, c'est une classe d'actifs qui a fait son entrée il y a quelques années dans le patrimoine, je dirais, des investisseurs. Alors, on vulgarise en disant retail, mais c'est des investisseurs privés. Ouais. Des particuliers. Alors qu'avant, c'était plutôt réservé à des clientèles fortunées, des grandes familles. Et aujourd'hui, on a démocratisé ça et à partir de 100 000 euros d'investissement, on peut retrouver justement de très belles solutions millésimées. Et notamment, alors tu parlais des décotes, et aujourd'hui, une classe d'actifs du private equity qui a le vent en poupe, c'est les fonds secondaires.
Ouais, tout à fait. Ah oui, les fonds secondaires, il y a de plus en plus d'acteurs qui se positionnent sur ce marché-là. Est-ce que tu peux nous expliquer, enfin aux auditeurs, ce qu'est le marché secondaire déjà et pourquoi c'est intéressant.
Alors en fait, il y a des acteurs qui investissent dans le private equity et qui, pour X ou Y raisons, alors je dis de manière très simplifiée, doivent revendre leur participation, mais elles revendent leur participation à entreprises qui sont déjà rentables. Et donc, il y a des fonds qui sont spécialisés sur ce marché-là et qui rachètent ces participations. Et donc, c'est ça qu'on appelle le marché du secondaire. Et donc, nous, on donne accès à nos clients, à ces fonds-là, qui rachètent du coup ces participations-là. Et donc, la performance, elle est plus rapide que sur des fonds primaires, parce qu'on est déjà sur des entreprises qui sont des temps portefeuille et qui génèrent de la rentabilité plus rapidement.
Tout à fait.
Et comme on est sur un marché du secondaire et qu'il y a ce volet liquidité et contrainte, etc., eh bien, les fonds sont achetés avec une décote. Et donc, l'investisseur final, lui, il investit dans des fonds qui achètent avec une décote. En ce moment, c'est aux alentours de moins 20, moins 30% les décotes. Et donc, il investit en générant une première plus-value sur la décote initiale. Donc ça, c'est intéressant. Et derrière, les rendements, ils sont plus rapides. Tu vois, par exemple, typiquement, nous, aujourd'hui, on propose une solution de private equity. Mmh. Les appels de fonds sont réalisés. Donc, tu t'engages sur 100 000 euros minimum.
Okay.
Les appels de fonds sont réalisés entre la première et la quatrième année. Donc, d'après notamment cet acteur-là, c'est 30% la première année. 18% la deuxième année appelée, 6% et 4% ensuite la quatrième année. Et ensuite, comme le fonds est sur du secondaire et ça distribue le rendement plus rapidement que sur des fonds primaires, à partir de la quatrième année, cinquième année, tu as déjà des distributions, notamment sur les millésimes précédents, on le remarque. Et donc, ces distributions, elles viennent prendre le relais de tes appels de fonds pour compléter l'enveloppe d'engagement. Et donc, du coup, ça génère un effet de levier. Et donc, par exemple, typiquement, le dirigeant qui ne veut s'engager, qui s'engage sur 100 000 euros, mais qui se dit « Ouais, mais j'ai peur d'être exempt », on lui dit « Mais non ». Parce qu'en fait, effectivement, alors, on le conseille et on lui explique correctement. Et on lui dit, en fait, vous allez être engagé au fil de l'eau. Et progressivement, c'est les distributions qui sont générées par le marché du secondaire, par les fonds en portefeuille, qui vont prendre le relais. Et donc, du coup, vous, votre engagement, il sera plus limité que si vous investissiez all-in aujourd'hui, quelque chose de bloqué 10 ans. Et donc ça, c'est toute cette pédagogie, il faut aussi l'expliquer. Et les fonds de secondaire, en plus, tu vois, typiquement, aujourd'hui, nous, les solutions qu'on préconise, fonds de secondaire, on va être sur des TRI cibles de 16 à 17%, avec un cash on cash de 2,2 et un MOIC de 1,6-1,7. Alors, c'est du jargon, c'est de la sémantique d'investissement, mais c'est pour expliquer qu'effectivement, aujourd'hui, nous, les solutions qu'on préconise, elles ont vocation à vraiment valoriser l'épargne des investisseurs en maîtrisant au maximum le risque.
Merci beaucoup, Nicolas. Donc, à partir de 100 000 euros, enfin, dans ton cas, évidemment, pour The Wealth Office, après, pour d'autres acteurs de la gestion de patrimoine, je ne sais pas. Donc, 100 000 euros vous concernant, donc, oui, du ticket minimum. Qu'est-ce que tu penses des club deals? Parce qu'il y a de plus en plus de club deals qui se montent et même des club deals créés par des, voilà, par des personnalités. Bon, Anthony Bourbon, pour ne citer que lui, avec Blast Club. Donc, qu'est-ce que tu penses des club deals? Est-ce que aussi c'est une solution intéressante pour un dirigeant? Peut-être qu'il n'aurait pas forcément un ticket important et qui pourrait profiter justement d'un portefeuille diversifié et sectionné.
Bah, de toute façon, tout ce qui aujourd'hui fait appel à l'épargne des investisseurs, pour c'est du pooling en fait.
Ouais.
Tu pooles différents investisseurs au sein d'un même véhicule et derrière tu achètes des biens ou tu finances des opérations. Forcément, tout ce qui touche à ça, aujourd'hui, c'est un levier intéressant. Mmh. Après, il faut étudier opération par opération, enfin plutôt solution par solution, ouais, si c'est intéressant, si ça vaut le coup de s'y projeter. Il y a aussi quelque chose qu'on regarde, nous, quand on va sur ce genre d'opération, c'est en cas de difficulté, mmh, quelles sont les garanties.
Ouais, tout à fait.
Parce que au début, quand on te propose des opérations, notamment de club deal, on va te dire, oui, il y a ce rendement cible-là, ok, etc. Okay. Mais si demain, ça ne va pas, quelles sont les garanties? Est-ce que le fonds qui te propose ça ou est-ce que les principaux fonds s'engagent et à quelle mesure? Moi, tout ça, ça va être quelque chose que je vais regarder de manière très attentive pour savoir si c'est intéressant ou pas. Mmh. Mais sur le principe, oui, les opérations de club deal, on en a déjà fait, nous, pour nos clients et on trouve ça intéressant. Mmh.
Ouais. Parce que la trésorerie finale que tu places pour les dirigeants d'entreprise, j'imagine que dans la grande partie, majorité des cas, c'est plutôt des investissements qui sont peut-être prudents. Par exemple, est-ce que tu peux investir sur du crowdfunding, des investissements beaucoup plus risqués, mais est-ce que ça t'arrive de le faire?
Alors, aujourd'hui, en tout cas, notre clientèle, nous, effectivement, la notion de prudence et la notion de maîtrise du risque, c'est quelque chose qui est crucial et fondamental. Normal.
Bien sûr.
Souvent, c'est des dirigeants qui s'arrachent du matin au soir pour que leur patrimoine fructifie. Donc, effectivement, on va être sur une notion d'approche du risque plus prudente qu'un investisseur de 22-23 ans qui veut mettre all-in sur de la crypto.
Oui, bien sûr, ouais, tout à fait. Ouais. C'est vrai que je n'ai pas parlé de crypto aussi, effectivement. Je ne sais pas si tu allais y venir.
oui, alors très rapidement, effectivement, nous, au sein de nos portefeuilles d'investissement, notamment au sein de nos enveloppes luxembourgeoises, on peut y dédier également une petite quote-part en crypto parce que tu sais qu'il y a récemment un ETF qui a été créé, ouais, qui réplique la crypto.
Ouais, ouais.
Effectivement, on peut y dédier une petite quote-part, mais ça va vraiment être aujourd'hui à la marge, parce qu'on est dans une approche patrimoniale et non pas dans une approche ultra dynamique de l'investissement. Mais effectivement, c'est quelque chose qu'on va pouvoir proposer dans nos portefeuilles d'investissement. Mais pour en revenir à ta question initiale, en fait, nous, on s'adapte à nos clients. Alors, on est hyper, hyper exigeant dans les solutions qu'on va derrière sélectionner, mais nos clients qui recherchent de la diversification et une approche dynamique, on va pouvoir les contenter. La grande partie des cas, ça va être des dirigeants qui recherchent quelque chose. Alors, j'aime pas cette expression, mais elle résume quand même assez bien. Ça, c'est en bon père de famille.
Ouais.
Je suis pas très fan de cette expression, mais ils veulent une approche, je dirais, cohérente, mais avec une maîtrise du risque. Comme ça, on va pouvoir leur offrir. Mais si quelqu'un aujourd'hui nous contacte en disant moi je veux une approche plus dynamique, on va pouvoir le contenter. Et notamment, alors je fais un focus sur private equity.
Bien sûr, mais parce que c'est intéressant et
ultra intéressant.
Tout à fait.
Effectivement. Mais aujourd'hui, les fonds de private equity qu'on préconise, quand je te parle de sur la dette privée, un TR cible de 13-15%, sur les fonds de private equity, un TR cible pour certains fonds de 16-17, sur d'autres fonds de 17-22%, ouais, sur du fonds. Parce que tout à l'heure, tu parlais aussi de liquidité. Mmh. Et donc, sur les fonds dits evergreen, donc des fonds qui ne ferment pas par opposition au closed-ended, pardon pour mon accent.
Et qui sont bien, des fonds qui sont très bien pour les entreprises, justement, qui cherchent
exactement,
des partenaires qui vont les accompagner dans la croissance très long terme. Parce qu'un fonds classique, bon, on dit qu'il reste entre 5 et 7 ans. L'avantage d'un fonds evergreen, c'est qu'il va accompagner vraiment les entreprises dans la durée. Et c'est intéressant dans un contexte où il y a le RSE, la partie voilà, écologique, et écologie, etc. Donc c'est vrai que c'est des fonds qui accompagnent dans le temps, donc qui peuvent être des partenaires. Exactement.
Tu bénéficies d'une performance embarquée, ton cash est employé dès le premier euro à 100%. Tu bénéficies d'un track record. Tu te dis, les fonds qu'on préconise, certains fonds, c'est 8,5 annualisés, d'autres, c'est 16,4 annualisés, d'autres, c'est 13% annualisé depuis 1900. Alors, si je dis pas de bêtises, 87.
Ouais,
donc aujourd'hui, tu bénéficies d'un super track record. Il y a une ultra diversification. Aujourd'hui, concrètement, le dirigeant qui vient et qui me dit « j'ai des objectifs », une fois qu'il sort du rendez-vous, il est emballé.
Ouais.
Parce qu'il y a tellement de solutions ultra qualitatives sur le marché qu'il est dommage de se priver de ça, notamment dans un contexte où l'inflation, elle vient grignoter ton épargne chaque année.
Tout à fait. Merci beaucoup, Nicolas. Je voudrais aussi revenir donc, sur une solution pour que tu y reviennes plus en détail. C'est bon, le contrat de capi.
Ouais,
capitalisation, donc parce que c'est un sujet, je pense, intéressant et qui mérite d'être davantage mis en avant. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer concrètement comment ça fonctionne, pourquoi un dirigeant devrait regarder cette solution et en quoi elle peut être davantage intéressante par rapport à d'autres solutions d'investissement pour la trésorerie?
Un contrat de capitalisation, alors, je vais pas me faire taper sur les doigts, c'est dans le fonctionnement comparable à l'assurance vie.
D'accord.
Là où ça diffère, c'est que l'assurance vie, ça repose sur un aléa, donc le décès. Donc tu as trois parties, l'assureur, l'assuré, le bénéficiaire. Le souscripteur, l'assuré et le bénéficiaire, pardon. Et si l'assuré décède, du coup, tu as des capitaux qui sont ensuite déployés auprès du bénéficiaire. Le contrat de capitalisation, ça repose pas sur cet aléa, en fait. Donc du coup, cet aspect assurantiel, c'est pas le même. Par contre, dans la manière dont ça fonctionne à l'intérieur en tant qu'enveloppe d'investissement, c'est là où ça fonctionne un peu comme un contrat d'assurance vie. Et donc, tu vas pouvoir ultra diversifier le contrat à l'intérieur. Concrètement, aujourd'hui, un portefeuille équilibré, selon moi, c'est un portefeuille où tu es un petit peu exposé sur le marché actions, parce que même si on est sur des niveaux hauts, continue à s'exposer parce que personne ne lui l'avenir, c'est pouvoir bénéficier d'une performance long terme.
Bien
ça, sûr. Tu vas pouvoir l'intégrer au sein de tes portefeuilles de contrats de capitalisation. Notamment par opposition, nous, on n'aime pas trop les fonds de gestion active qui grignotent toute la performance, etc. On préfère mettre des ETF qualitatifs à l'intérieur. Donc ça, tu vas pouvoir le mettre au sein d'un contrat de capitalisation. Tu vas pouvoir, parce que les contextes de taux le permettent aujourd'hui, aller sur des bonds, donc des obligations datées avec une performance cible de 4-4,5 pour pouvoir en fait sécuriser une partie du portefeuille en ayant accès à des solutions qualitatives sécurisées. Donc ça, c'est intéressant. Tu vas pouvoir aller sur des actifs décorrélés, donc de la dette privée, de l'infrastructure, du private equity evergreen, avec ce que j'expliquais tout à l'heure, une performance embarquée qui démontre toute la qualité des fonds qu'on a sélectionnés, et avec un portefeuille complètement équilibré et harmonisé. Et tout ça au sein d'une même enveloppe fermée, va pouvoir jouer sur les intérêts composés année après année. Et quand le dirigeant va souhaiter in fine tirer les fruits de ses revenus, il va réouvrir cette enveloppe en disant « Ok, j'ai eu un portefeuille équilibré qui m'a permis de générer tout ça. » Et donc, ces solutions, on va pouvoir investir au fil de l'eau. Par exemple, je te parlais de private equity en direct, on va pouvoir le faire en direct, etc. Mais on va aussi pouvoir le faire au sein d'une même enveloppe. Et derrière, y faire des arbitrages à l'intérieur, intégrer des opportunités au fil de l'eau et surtout, toujours en cohérence avec le contexte actuel. Donc, le contrat de capitalisation, c'est quelque chose qui est, je pense, sous-coté, dont on tire dessus souvent un boulet rouge en parlant du fameux taux TME et de la fiscalité punitive. C'est pas vrai, parce que quand on pose les calculs, souvent c'est pour ça que j'en parle sur mon compte LinkedIn, quand on pose les calculs, on voit qu'en fait, on peut y faire des choses magnifiques à l'intérieur.
C'est quoi la fiscalité pour ce type de solution?
Le contrat de capi, c'est au sein d'une structure, c'est la fiscalité IS qui va s'appliquer. Mmh. La subtilité, c'est que chaque année, tu vas avoir une avance.
Ouais.
Donc, tu vas regarder le contrat, tu vas retirer à ça les rachats effectués, donc il n'y en aura pas. Et ça, tu vas le multiplier par 105% du taux TME. Donc,
d'accord.
Par exemple, là, c'est 2,78 pour le 31 janvier. Et ensuite, tu vas ça va être l'assiette taxable que tu vas fiscaliser au taux IS en vigueur. Donc, 15% jusqu'à 42,500, on va dire 25% au-delà. Et donc, ça va être la fiscalité, du coup, d'avance. Et au jour où tu vas faire un réel rachat, tu vas avoir une harmonisation entre la fiscalité réellement payée et la fiscalité au jour du rachat. Donc, c'est ça, en fait, la fiscalité du contrat de capitalisation. Mais, selon moi, eu égard aux performances cibles, eu égard à ce que tu peux y loger à l'intérieur, et eu égard à l'harmonisation du portefeuille que tu peux créer via contre-capitalisation, la fiscalité aujourd'hui, ce n'est pas un sujet pour moi à l'intérieur.
Comment sait-il que cette solution, donc les contrats de capi, justement, ne sont pas assez peut-être connus ou portés à connaissance des dirigeants d'entreprise ? Il y a une raison, ouais, je sais
pas. C'est intéressant ta question. Alors, récemment, je parlais avec, récemment, il y a quelques semaines, un expert comptable m'a dit que, le fameux taux TME, parce qu'on était sur des niveaux de 3.
Plus élevé que.
Il y a quelques mois, on était sur le niveau de 3, quasiment un peu plus de 3. Il disait oui, mais par rapport au taux TME, c'est pas forcément intéressant. Souvent, c'est parce qu'en fait, peut-être qu'ils n'avaient pas été sensibilisés à ce qu'on pouvait y faire. Moi, je t'ai dit qu'on travaillait beaucoup sur les contrats luxembourgeois. Et qui dit contrat luxembourgeois dit plus grande latitude de ce que tu peux intégrer à l'intérieur de ces contrats. Et pour le coup, travailler sur des contrats luxembourgeois qui te permettent d'avoir une superbe allocation, ça élimine l'excuse de dire « oui, mais il y a peut-être le taux TME, la fiscalité, je ne sais pas quoi y mettre à l'intérieur, etc. » En fait, quand on... C'est une enveloppe d'investissement. Mais ce qui compte, c'est pas cette enveloppe, c'est pas le réceptacle. C'est ce que tu mets à l'intérieur.
Tout à
Moi,
fait.
Par exemple, tu vois, parallèle, j'adore la F1.
Ouais.
La Formule 1, j'adore ça.
Ah ouais, bah oui.
J'adore ça. Mais si tu vas visiter l'usine Red Bull et qu'il n'y a pas le moteur à l'intérieur de la voiture, la voiture, elle est belle. Hein.
Ouais.
Mais sans le moteur, elle vaut rien.
Bien sûr.
Un contrat, c'est pareil. Sans une allocation sur mesure à l'intérieur harmonisée, dire j'ai un contrat de capitalisation, ça veut rien dire. C'est ce qu'il y a à l'intérieur qui compte. Et nous, on fait en sorte que ce qu'il y a à l'intérieur, ce soit qualitatif et diversifié.
Merci beaucoup, Nicolas. Donc, dans toutes tes analyses, et comme on parle d'investissement, donc il y a toujours l'environnement économique. Alors, comment tu prends en compte cet environnement économique qui change constamment et selon toi, même si toujours compliqué de prédire entre guillemets l'avenir, mais quelles solutions vont être davantage plébiscitées dans les 5-10 années qui vont venir compte tenu du contexte actuel?
Si je savais.
C'est une question quoi.
Si je connaissais l'avenir. Non, mais plus sérieusement, alors effectivement, l'économie, c'est des cycles. Moi, j'adore l'économie.
Parce qu'à chaque fois, tes postes, ça parle toujours très souvent d'économie, c'est super intéressant pour comprendre.
Ouais, j'adore l'économie, j'ai commencé à m'y intéresser. Là, je vais un peu d'autopromo, mais pour expliquer.
Bien sûr, mais profite-en.
J'adore l'économie, j'ai commencé à m'y intéresser à partir de la crise des subprimes en 2008.
Hein, d'accord.
Tout à l'heure, je te parlais de Lehman Brothers qui a fait faillite en 2008. Mais en fait, j'ai commencé à m'y intéresser à ce moment-là et en fait, j'ai remarqué que l'économie, c'est pas moi qui l'ai remarqué, mais l'économie, c'est des cycles.
Ouais.
Et à chaque cycle, son opportunité. Par exemple, tout à l'heure, je te disais que là, on est dans un contexte où depuis plusieurs années, il y a une surinflation, une surchauffe de l'inflation, 5,22 d'après l'INSEE en 2022, 4,9 d'après l'INSEE en 2023. Là, on est autour des 3%, et encore, c'est sans compter l'inflation des personnes qui dépensent dans des activités plus de luxe. Là, on est sur une plus grosse inflation. Donc, on est sur une inflation importante. Les banques centrales, notamment la Banque centrale européenne, au travers de Mme Lagarde, décident de réguler l'inflation en remontant les taux, donc en réduisant l'accès à l'argent. Et donc, ça permet quoi? Ça permet la contrepartie, c'est que les emprunteurs, ils se trouvent un peu lésés parce qu'ils empruntent quelque chose de plus cher que ce que ça valait avant. Ils payent plus cher alors qu'avant, c'était moins cher. Par contre, les investisseurs, eux, ils ont accès, et notamment ceux qui investissent dans des obligations,
tout à fait.
Ils ont accès à des opportunités plus intéressantes. Donc, par exemple, quand je te parle d'obligations datées, c'est parce qu'aujourd'hui, on a accès à des opportunités du fait que les taux soient hauts. Le fait que les taux soient hauts, ça permet aussi de se dire... plutôt les marchés financiers, le fait que les marchés financiers crèvent le plafond et tutoient des sommets, ça permet de se dire, si demain il y a une correction, est-ce que c'est opportun que je dédie 100% de mon patrimoine sur des marchés financiers? La réponse, selon moi, est non, parce qu'on ne met pas tous les œufs dans le même panier. Et donc, qu'est-ce qu'il existe à côté? Des actifs décorrélés, notamment, je t'ai parlé du private equity, des actifs un petit peu de non-côté d'économie réelle, qui permettent en fait d'harmoniser le portefeuille et de ne pas être exposé plein pot sur une seule et même classe d'actifs. Donc oui, les cycles génèrent des opportunités et quant à te répondre ce que fera l'économie dans et quelles seront les opportunités dans 4, 5, 6 ans, honnêtement, on fera au fil de l'eau. Moi, à titre personnel, je suis convaincu que l'investissement de long terme, c'est de l'investissement cohérent. Donc ça veut dire que on n'est pas là à faire du stock picking chaque année en se demandant est-ce que si ça... Tu vois, si t'as une maison et que personne vient tous les jours te dire oui ta maison elle a baissé, ta maison elle a augmenté, ta maison... Non, en fait c'est sur du long terme que tu verras l'évolution. Ben, je pense, c'est-à-dire qu'un investissement patrimonial c'est pareil. En tout cas nous on sera là pour saisir les opportunités de marché en fonction de ce que nous offre l'économie.
Merci beaucoup Nicolas. Il y a aussi moi je vois de par mon regard extérieur, vous dire, je suis pas expert sur les sujets d'investissement patrimoniaux, mais les SCPI, j'ai l'impression que c'est de plus en plus aussi demandé. Il y a de plus en plus de start-up, d'acteurs qui se positionnent sur ce marché-là, donc des SCPI. Qu'est-ce que tu penses de cette solution d'investissement? Tu en as parlé tout à l'heure, tu as dit quels sont les avantages. Est-ce que tu peux revenir sur cette solution? Parce que on le voit davantage, c'est une solution qui est davantage demandée à chaque fois.
Le principe initial de la SCPI, c'est un principe intéressant. Ça veut dire que toi, tu souhaites investir dans un parc immobilier locatif. Tu ne vas pas forcément avoir ton souci à le gérer. Tu n'as pas forcément le ticket d'entrée pour aller sur des grosses opérations d'investissement tout seul.
Parce qu'on parle, excuse-moi, je te coupe, on parle en fait de quel... On parle d'un minimum à chaque fois.
Le ticket minimum. C'est payé à partir de 200 euros.
D'accord, ok, très bien. D'accord.
C'est le ticket minimum. Il est vraiment très très bas. En fait, le principe de la SCPI, c'est d'investir collectivement et indirectement dans un parc immobilier locatif, donc au travers d'un véhicule d'investissement géré par une société de gestion. Et en fait, une fois que ce véhicule a collecté, il investit sur différentes thématiques. Donc, ça peut être thématique de santé, de bureau, d'hôtel, de résidence. Ça, vraiment, c'est ultra diversifié. Il peut investir en France, il peut investir à l'étranger. Donc, il peut ultra diversifier les secteurs et les zones géographiques. Et derrière, toi, l'objectif, c'est que tu perçoives des revenus clés en main pour satisfaire tes objectifs initiaux. Donc, c'est intéressant sur le principe. Après, là où... Et comme toute solution d'investissement...
Il faut identifier le meilleur fonds.
Exactement, voilà, les tu fonds, parlais du club tout à l'heure, il faut déterminer les meilleurs SCPI. Nous, on a un cahier des charges très strict qui détermine, selon nous, quelles sont celles qu'on va préconiser et celles qu'on va on va écarter. Et derrière, on les préconise à nos clients.
Alors, Nicolas, quels sont les conseils que tu donnerais à un dirigeant qui chercherait à faire travailler sa trésorerie excédentaire, je le rappelle, quels sont les conseils?
Contacter The Wealth Office.
Ouais, très bon conseil. J'allais le dire, mais bon, tu m'as devancé.
Non, contacter The Wealth Office. En fait, un dirigeant qui souhaite valoriser sa trésorerie, c'est pas un objectif. Je m'explique.
Bien sûr.
Un objectif, c'est pourquoi je veux valoriser ma trésorerie. À quelle échéance, quel risque je suis prêt à prendre, est-ce que je suis prêt à bouger maintenant? Les objectifs et les moyens. Donc, un dirigeant qui me dit « j'ai envie de valoriser ma trésorerie », je lui réponds « pourquoi ?» Oui, parce que je souhaite valoriser, parce que je souhaite protéger mes enfants. C'est-à-dire, en fait, en posant des questions, derrière, j'ai l'objectif final. Je te rassure, les objectifs, c'est souvent les mêmes. C'est « je veux pouvoir arrêter de travailler plus tôt »,« je veux protéger mes enfants s'il m'arrive quelque chose »,« je veux protéger mon époux ou mon épouse s'il m'arrive quelque chose ». Ça reste dans le même spectre. Par contre, quelqu'un qui me dit « je veux valoriser ma trésorerie », c'est comme quelqu'un qui me dit « je veux gagner de l'argent ». Pourquoi ? Comment ? À quelle échéance ? Qu'est-ce que tu es prêt à faire ? Dans quelle mesure ? Est-ce que tu es prêt à commencer maintenant ?
Et après, tout à fait. Et surtout, les questions que tu poses, elles permettent de conditionner, entre guillemets, le profil d'investisseur. Donc, est-ce qu'il a un profil plutôt prudent? Est-ce qu'il est prêt à prendre des risques? Donc, c'est important et on parle au final. Tu l'as dit tout à l'heure, donc comprendre aussi le niveau de vie aussi du dirigeant, combien il se paye, qu'est-ce qu'il veut plus tard. Exactement. Comme autre revenu. Donc, toutes ces questions-là sont importantes et malheureusement, je pense pas tous les acteurs ne font ce job-là. Et quand on parle de sujets patrimoniaux, toujours important d'avoir un angle d'analyse à 360 degrés.
C'est clair. Et tu vois, s'il se distribue des dividendes, est-ce que c'est vraiment nécessaire? Est-ce que il le souhaite? Pourquoi il le fait derrière? Typiquement, si le mec me dit, si l'investisseur pardon me dit,
ouais, mais t'inquiète,
c'est parce que
t'inquiète pas,
on est bien à l'extérieur, donc
on en profite.
Je te parlais comme si on était tous les deux à l'extérieur, pardon.
Ça va, non, mais t'inquiète pas alors.
Ok. Si l'investisseur me dit je distribue des dividendes parce qu'après je m'en sers pour réinvestir titre privé, ben je lui explique que pour potentiellement là il vient de, enfin potentiellement non, il vient de manger 30% de flat tax. Alors que s'il souhaite le faire directement au sein de sa société d'exploitation ou s'il souhaite le faire au travers d'une holding, parce que ça répond à ses objectifs, ça peut être un levier d'optimisation. Donc en fait, valoriser la trésorerie, je dirais, c'est la conclusion d'une compréhension initiale de la situation, d'une compréhension des ressources à disposition et surtout d'une visibilité sur le calendrier.
Très important que tu le soulignes, effectivement. Ouais. Toujours important d'avoir un why, enfin pourquoi on veut le faire.
Toujours.
Et comment on va le faire. Donc, comment, c'est toi, c'est grâce à ton expertise et ton accompagnement, mais le pourquoi, c'est toi qui amène aussi le dirigeant à se confier aussi, à se livrer, on va dire. Pour clôturer ce très bel échange, Nicolas, ouais. Est-ce que tu voudrais revenir sur des sujets que j'ai pas évoqués, des questions que je n'ai pas posées et qui paraissent importante, ou alors juste rajouter un mot, mais libre à toi là, de dire ce que tu veux, c'est carte blanche.
Bah, je vais rajouter un tout petit mot parce que j'ai présenté le cabinet en 30 secondes tout à l'heure, quelques chiffres, c'est intéressant de voir où on en est, parce qu'on a créé le cabinet il y a un an.
C'est fou, la croissance que vous avez.
Ouais, c'est fou comme tu disais. On accompagne aujourd'hui une trentaine de clients, on a 20 millions d'euros, un peu plus d'un million d'euros, 20 millions d'euros en encours administrés, pour 200 000 euros de chiffre d'affaires sur cette première année. Et donc, on commence à bien se structurer. Aujourd'hui, on est 4. Et on va beaucoup, beaucoup plus communiquer sur des canaux vidéo ou audio, comme on le fait là, parce qu'on remarque que c'est très apprécié. On essaie de toujours faire preuve de pédagogie. Et donc, on va beaucoup communiquer à destination de nos clients et des partenaires potentiels, experts comptables, notaires, avocats. Donc, il y a beaucoup de choses à venir et on en est ravis.
Qu'est-ce qui fait un bon gestionnaire de patrimoine? Parce que moi, toujours avec mon regard extérieur, je vois parfois voilà, ça se tire à balles réelles sur les réseaux, entre bon, d'un côté les CGP indépendants, l'autre qui ne sont pas indépendants. Qu'est-ce qui fait un bon gestionnaire de patrimoine aujourd'hui?
Alors oui, c'est bonne guerre.
bien sûr.
Mais ce qui fait un bon conseiller en gestion de patrimoine, c'est le volet humain. Alors c'est pas galvaudé, c'est vraiment le volet humain et la curiosité. Je m'explique, le volet humain parce que tout à l'heure, tu évoquais, tu disais que la pédagogie, c'était important. Tu m'as relancé sur le fait que j'expliquais beaucoup l'économie et autres.
En fait,
les investisseurs veulent comprendre. Et surtout, derrière l'investisseur, il y a un humain, des émotions. On n'est pas tout le temps dans le rationnel. On a aussi un gros volet émotionnel, notamment sur l'approche du risque et autres. En fait, il faut comprendre à qui tu parles, ton interlocuteur, et potentiellement quelqu'un à qui tu présentes quelque chose, tu ne lui présenteras pas de la même manière, toujours avec transparence, mais tu ne lui évoqueras pas la chose de la même manière par rapport à quelqu'un d'autre pour qui la sensibilité est ailleurs. Donc, c'est vraiment s'adapter à la personne à qui tu parles, lui vouloir du bien, toujours être dans une volonté d'aligner tes intérêts avec ton interlocuteur, parce que c'est ça qui fera que tu pérenniseras ton activité sur le long terme, et surtout d'être ultra curieux. Le contexte économique, macroéconomique, fiscal, civil, il change, il évolue tout le temps, et c'est souvent, c'est l'humilité de toujours se dire, ok, qu'est-ce qu'aujourd'hui je peux préconiser, et qu'est-ce qu'aujourd'hui le contexte me permet de faire. Donc c'est humilité, empathie et curiosité.
Et transparence aussi, parce que c'est vrai que vous, effectivement, vous êtes... Vous vous distinguez de par votre transparence et c'est important parce que quand je discute, par exemple, j'ai échangé avec un médecin hier qui me disait que son banquier, il en avait marre parce qu'il découvrait des frais dont il n'avait pas connaissance et à chaque fois il se dit mais c'est n'importe quoi et donc ça ternit l'image malheureusement des conseils en gestion de patrimoine pardon et donc c'est très important cette notion de transparence que Camille et toi donc avec The Wealth Office arrivaient très bien à faire transparaître.
Exactement parce que tu vois on communique beaucoup là-dessus régulièrement moi lors d'un rendez-vous découverte souvent pour un particulier quand on regarde le patrimoine privé mais même professionnel. Ok, je dis, est-ce que vous avez votre contrat sous les yeux? Ok, partagez-le-moi, parce que 99% des échanges se font en visio. Partagez-le-moi, ok. On regarde fond par fond. Ensuite, on va faire deux choses simples. On va sur Cantalis, donc il y a un outil gratuit pour regarder. En fait, souvent, c'est des fonds qui ne battent pas l'indice de référence, qui ne le battent pas depuis l'origine, alors que dans la carte d'identité du fonds, le DC, donc le document d'information clé pour l'investisseur, ils sont censés le faire, ils ne le font pas. Et après, je regarde dans le document d'information clé pour l'investisseur le coût du fonds. Et souvent, même constat. Ok, donc vous payez 2,5% pour quelque chose qui ne performe pas. Et en face, je montre qu'est-ce que vous pourriez avoir en face. Et quand le client, l'investisseur me dit, mais pourquoi on ne m'a pas proposé ça? Bah parce que là, d'un côté, en fait, votre conseil, il perçoit des rétrocommissions, et de l'autre, il n'en percevrait pas. Et nous, en fait, on aligne également notre modèle de facturation et la façon dont on gagne notre vie, on l'aligne avec notre client, ce qui fait qu'on n'est pas, le jour où on lui propose des solutions, plutôt orienté par telle ou telle solution qui va nous rétrocommissionner, parce qu'on est totalement transparent avec lui, et surtout, on est aligné en termes d'intérêt.
Merci beaucoup, Nicolas, pour ce très bel échange et très important. Donc, je recommande à tous les dirigeants, les entrepreneurs qui nous écoutent, bah déjà, d'une part, de suivre Nicolas sur LinkedIn, hein, parce qu'il publie très régulièrement et toujours des choses instructives, et également de contacter Nicolas et The Wealth Office pour vous permettre de travailler cette trésorerie et surtout d'anticiper tous vos sujets patrimoniaux, parce qu'on a parlé de trésorerie, mais évidemment, vous ne faites pas que ça, mais c'est un des moyens aussi d'arriver à certains objectifs patrimoniaux. Donc, The Wealth Office et donc Nicolas Camus, merci beaucoup.
Merci à toi.
Et à très vite surtout.
À très vite.